gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Déchire quand même.
N'importe
quoi. Bonsoir à tous. Il est 22h sur Radio Canu. Vous écoutez La Causerie. Donc ce soir, autour dans au studio. C'est vrai que j'essaie de prendre le réflexe.
Attends, il y a un effet cathédral, non? On s'entend un peu comme dans une église. Ou alors peut-être pas vous.
Je t'ai dit qu'il y avait un petit.
Ah, il y a un truc bizarre. Tu vois.
Mais c'est, bon. On fera une belle émission quand même, vous inquiétez pas. Même si tout est bizarre dans nos oreilles. Donc oui, au studio ce soir, pas autour du studio. Donc, autour du studio, nous avons Jean-Yves.
Bonsoir.
Fab.
Salut.
Clara la technique.
Bonsoir.
Et Stan qui parle tout seul à lui-même.
Salut.
Ben ça c'est pas nouveau.
Ah.
Mais c'est pas grave, on t'aime quand même.
Et donc oulala, il y a plein de choses à dire encore, c'est dingue. Donc déjà, vous pouvez nous écouter en direct, donc sur 102.2. Mais là, c'est là où vous êtes maintenant. Ou sur Internet. Donc, sur
radiocanu.org.
Vous avez le petit lien qui vous permet d'écouter tout ça. Vous pouvez nous retrouver aussi pour nous écouter en podcast ou pour nous écrire des petits commentaires sur...
Alors, blogs.radiocanu.org/lacauserie ou tu vas dans les blogs de Radio Canu et tu trouves La Causerie.
Exactement.
Sur radiocanu.org.
Et vous pouvez aussi nous écrire un petit mail.
Bah, lacauseriecanu@gmail.com.
Tout beau. Attaché en tout petit.
Voilà.
C'est bon.
Et on l'a pas dit dernière fois, parce que c'est moi qui faisais l'intro, donc je sais que je l'ai oublié. On est aussi sur un réseau social.
Ouais,
c'est vrai.
Bleu. Qui n'est pas un oiseau.
Mais où. Et où on répond pas. Et donc, passez plutôt par les mails si vous devez nous contacter, vraiment, quoi. Non, mais voilà, parce que c'est une question pratique.
C'est ça.
Parfait. Et donc, ce soir, on commence par. Je sais plus en fait.
Bah c'est Jean-Yves en fait.
Ah, mais par Jean-Yves, voilà. D'un coup, j'ai eu le doute, je me suis perdu.
Et moi, j'ai un message en tout cas, pas forcément petit, mais à vous transmettre, c'est un appel depuis le Venezuela aux anarchistes d'Amérique latine et du monde. Je vais vous le lire et puis on en parlera peut-être après. Donc la solidarité est beaucoup plus qu'une parole écrite. Nous adressons à tous les organes d'expression du mouvement libertaire, en particulier ceux de notre continent, non seulement pour attirer votre attention sur la situation que nous vivons au Venezuela depuis avril 2017, mais sur ce qui est, pour nous, une urgence, c'est-à-dire faire en sorte que l'anarchisme, au niveau international, s'exprime plus fortement en ces dramatiques circonstances, avec des attitudes et des actions cohérentes par rapport à ce qu'a été la prédication et la pratique de l'idéal anarchiste durant son parcours historique. Il est déplorable de voir que pendant qu'une partie du gouvernement chaviste, dirigé aujourd'hui par Maduro, utilise ses relais médiatiques à l'extérieur du pays, les opposants de droite et de la social-démocratie mènent des campagnes tapageuses pour vendre à l'opinion mondiale leur vision également biaisée et chargée. Ces campagnes n'ont pour but que de s'emparer du pouvoir. Pendant ce temps, de nombreuses voix anarchistes, en dehors du Venezuela, ont maintenu un silence qui représente d'une certaine manière l'acceptation tacite de ce que les uns ou les autres, des candidats avides de pouvoir de l'État, veulent imposer comme vérité. Nous savons que les voix qui nous sont proches n'ont pas accès aux mêmes moyens d'information des étatistes de tout poil et que les compagnons affrontent des réalités complexes où il y a des thèmes et des problèmes qui, par leur urgence, réclament leur immédiate préoccupation. Mais nous pensons que cela ne devrait pas être un obstacle afin que, d'une certaine façon, si modeste soit-elle, s'exprime l'attention, l'intérêt et la solidarité par rapport à ce qui se passe au Venezuela, de même que par rapport à tout ce que divulgue l'anarchisme dans cette région. Je continue. En bref, voici résumé ce que l'anarchisme local dit aujourd'hui. L'actuelle conjoncture met en évidence la nature fasciste du régime de Chavez et sa séquence avec Maduro. Les gouvernements militaristes réactionnaires que nous avons toujours dénoncés dans notre journal El Libertario. Ce système a toujours été lié au crime, au trafic de drogue, au pillage, à la corruption, à la prison pour les opposants, aux tortures, aux disparitions en dehors de la gestion désastreuse au niveau économique, social, culturel et éthique. Chavez a réussi à impacter avec son leadership messianique et charismatique, financé par la hausse du prix du pétrole. Mais, après sa mort et la fin de l'abondance, le soi-disant processus bolivarien s'est dégonflé, car il était soutenu par des bases faibles. Cette « révolution » entre guillemets a suivi la tradition rentière historique initiée au début du XXe siècle avec le dictateur Juan Vicente Gómez, poursuivi par le militaire Marco Pérez Jiménez et qui ne cesse pas dans l'ultérieur régime démocratique représentatif. Certaines personnes, au niveau international, Noam Chomsky en est le meilleur exemple, c'est dans le texte, ont corrigé leur soutien initial à l'autoritarisme vénézuélien et aujourd'hui, ils le dénoncent sans ménagement. Cependant, nous notons avec une grande préoccupation le silence des anarchistes de son continent et d'autres sur les événements au Venezuela. Un adage dit « Celui qui se tait consent ». Ce qui arrive à la perfection lorsqu'on affame et on réprime de manière criminelle un peuple quand ceux qui devraient protester ne disent que peu ou rien. Nous appelons ceux qui portent le drapeau libertaire à se prononcer s'ils ne l'ont pas fait au sujet de notre tragédie. L'indifférence n'a aucune justification si vous avez une vision du monde anarchiste. L'inverse est de couvrir la farce du gouvernement vénézuélien en oubliant ce qui a été dit par les anarchistes de tous les temps sur la dégradation du socialisme autoritaire au pouvoir. Peut-être que dans le passé, le mirage progressiste du chavisme a pu tromper certains libertaires. Mais en étant conséquent avec notre idéal, il est impossible aujourd'hui de continuer à soutenir cette croyance. Nous sommes en présence d'un gouvernement agonisant, délégitimé et répressif qui cherche à se perpétuer au pouvoir, désavoué par l'immense majorité de la population, qui assassine à travers ses forces répressives et les collectifs paramilitaires qui favorisent aussi les pillages. Un gouvernement corrompu qui exerce un chantage avec les caisses d'aliments vendues au prix du dollar noir, qui est impliqué dans toutes sortes de négociations, un gouvernement de bourgeois bolivariens et de militaires enrichis avec les revenus du pétrole et les mines écocides. Un gouvernement qui affame et assassine tout en appliquant un ajustement économique brutal en accord avec le capitalisme transnational qui paie régulièrement une dette externe criminelle. Il est temps de démanteler les manœuvres pseudo-informatives de ceux qui prétendent à l'extérieur du pays contrôler le pays, comme celles de ceux qui aspirent à contrôler l'État vénézuélien. Et pour cela, nous espérons pouvoir compter sur le soutien actif des individus et des groupes libertaires, aussi bien en Amérique latine que dans le reste de la planète. Toute manifestation de solidarité anarchiste sera bienvenue pour le mouvement libertaire vénézuélien. Un mouvement petit et qui agit malgré de nombreuses difficultés, mais qui, dans l'actuelle conjoncture, appréciera énormément de savoir que nous pouvons compter sur les compagnons du reste du globe, soit par la reproduction et la diffusion des informations que publient les anarchistes du Venezuela, soit en générant des opinions et des réflexions qui démontent les visions qu'essaient d'imposer les autoritaires de droite et de gauche, et, ce qui serait beaucoup mieux, en faisant la promotion ou en soutenant les initiatives d'action dans leurs pays respectifs où se dénoncent les circonstances, la faim et la répression qui se vivent aujourd'hui au Venezuela. Maintenant, plus que jamais, votre présence et votre voix est nécessaire dans tous les scénarios possibles où sera dénoncée la tragédie dans laquelle est plongé le peuple vénézuélien. Et c'est signé donc la rédaction de El Libertario. Et la traduction, je vais quand même la souligner, elle est faite par Daniel Pinos, un compagnon anarchiste. Et la dernière note, enfin, qui est ajoutée par le groupe El Libertario, c'est qu'une analyse plus approfondie et détaillée des informations sur ce qui se passe au Venezuela est chaque jour sur le blog justement El Libertario.
On mettra le lien.
Oui, on mettra le lien. Alors, c'est, oui, il y a quelques textes en français. Par exemple, ce texte-là, traduit, a aussi été mis sur le site El Libertario.
Il y a un paquet d'outils de traduction automatique sur Internet qui permettent aussi de lire des fois des textes qui ne sont pas en français, sans être, enfin, sans nous demander beaucoup de manip, quoi.
Oui, c'est tout à fait ça. Donc voilà. Donc, alors, on n'a pas changé la face du monde en lisant le message, mais en tout cas, on fait ce qu'on peut, justement, avec les moyens qu'on a, en tout cas, avec une radio, pour diffuser, ben, justement, cette autre voix. Parce que quand même en France aujourd'hui, enfin je l'ai vu puisque j'ai partagé ce texte un peu sur les réseaux, et ben c'est tout de suite on te dit que tu soutiens que les anarchistes vénézuéliens soutiennent une révolution bourgeoise et de droite. En fait non, hein, j'appelle tout de suite ceux qui aiment apporter des critiques qui se cachent derrière une forme d'indépendance, mais qui relève surtout, je pense, de leur adoration des régimes autoritaires de gauche, c'est qu'en fait, on peut faire d'autres choses. On n'est pas soit soutien de Chavez ou de Maduro aujourd'hui, soit de droite, voire d'extrême droite, en fait. Ouais, il faut sortir du simplisme, en fait.
Surtout qu'on ne peut pas soupçonner El Libertario d'être un journal de soutien de droite. Il a quand même été un des relais durant les deux dictatures au Venezuela, des relais d'information et puis pas que d'information, mais ça après, l'histoire en parlera, comme on dit. Ils ont toujours été très clairs sur le fait que ce qui leur posait problème, c'est le pouvoir au départ, et la concentration du pouvoir encore plus, et que le vrai problème qu'ils voient aujourd'hui, et c'est ce qu'ils disent dans leur texte, c'est finalement le chavisme vire comme on virait toutes les autres formes de gouvernement qu'ils ont connues au Venezuela. Et on va quand même le dire, on est à 49 morts ce soir, 49 morts dans une des répressions policières et paramilitaires. Les gens sont jugés dans des tribunaux militaires et ne sont pas jugés dans les tribunaux civils. Donc ça déjà, c'est une dérive hallucinante. Moi, je voudrais juste qu'on m'explique, et je dis ça sans aucune provocation, comment ça se fait que quand une personne est tuée par la police en France, ce qui est inadmissible et ce qui est totalement pas du tout discutable, on a une espèce de levée de bouclier qui nous explique que c'est pas normal, et je fais partie des gens qui lèvent le bouclier, donc ça me pose aucun problème. Et pourquoi les mêmes personnes que je peux avoir en face de moi, eh ben, ils nous disent, ouais, mais là, c'est pas pareil. Ben, en quoi c'est différent quand d'un seul coup un peuple descend dans la rue et qu'on lui tire dessus à balles réelles et qu'en plus l'ordre vient clairement, comme ça a été établi par plusieurs journalistes, directement de la tête de l'État qui demande de tirer sur sa population. Quand on en est là, il n'y a pas de différence. Donc quand on commence à se dire là-bas, c'est pas pareil, ben, le différentialisme, il est un petit peu crade par moment et c'est un bel exemple, quoi. Voilà.
Ben, je sais pas si tu veux. Moi je trouve que ça relève de la même chose dont on a déjà pu parler et sûrement dénoncer certainement d'une certaine manière, mais c'est cette position de merde qu'adoptent pas les anarchistes aussi certains, mais une grosse partie de l'extrême gauche sur tous ces pouvoirs autoritaires de gauche ou prétendus de gauche, c'est-à-dire Cuba. On a eu la même chose quand il y a eu l'URSS, hein, je veux dire, combien
oui,
n'ont pas
un
vu...
Un aveuglement, quoi.
Combien n'ont pas vu, n'ont pas voulu voir, et ont donc soutenu les pouvoirs autoritaires, ce qui se passait en Russie, par exemple. Et je me souviens d'une chanson de, justement, Hubert Félix Sieffen, qui disait « Personne n'a vu certains camps, ils revenaient ici, ils écrivaient de beaux textes sur la Grande Russie. »
Aragon, Elsa.
Par exemple. Et des grands noms, justement, qu'on aime tellement se gargariser avec. Et que, encore une fois, enfin, je pense qu'il faut qu'on développe
une vision internationale des choses.
Internationale et critique, quoi. C'est-à-dire que tout pouvoir doit se critiquer. Alors, en plus, quand on est anarch, effectivement, le pouvoir, c'est quand même un truc qu'on devrait cibler tout le temps, quoi. Qu'il soit de gauche ou de droite, en fait. Le problème, c'est...
Toujours, pour moi, quand on est progressiste, surtout, on doit éviter, au sens large, on doit éviter de faire du différentialisme à tout craint. C'est-à-dire à dire, oui, mais peut-être que là-bas, c'était légitime que les flics tirent sur la foule. Non, je crois pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste de la logique. Et non, les tribunaux militaires, ça a jamais été un truc d'émancipation. Ou alors, j'ai pas compris à quoi servait l'armée. Mais là, il faudra peut-être m'expliquer. Vous pouvez m'écrire, hein, d'ailleurs, si vous voulez m'expliquer.
Et je crois que c'était très vrai ce que tu disais, c'est cette incapacité dont je peux faire partie aussi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, de se réinventer sur plein de choses. T'en parles justement en disant, c'est pas parce qu'on est contre un système de gauche qu'on est forcément de droite. Et on parlait aussi, je faisais des petits rappels à d'autres choses qu'on avait déjà dit, mais la capacité de sortir d'un système, de sortir du système en France comme à l'étranger, enfin dans tous ces systèmes-là, on est incapable de vraiment créer quelque chose ou d'admettre qu'on peut aller sur quelque chose de nouveau qui sera meilleur que tout ce qu'on nous a enseigné et tout ce qu'on nous a appris à subir ou pas, enfin suivant les personnes, mais depuis des années. on est dans cette capacité de réflexion sur le sujet, quoi.
Ouais, c'est ça, en fait. C'est développer nos esprits critiques constamment, régulièrement, tout le temps, en fait. Enfin, aujourd'hui, demain, et enfin, tout le temps. Donc, voilà, on aura en tout cas partagé le message des copains et des copines anarchistes du Venezuela. On tâchera de revenir peut-être régulièrement. J'essaierai de vous faire passer peut-être plusieurs textes qu'ils ont pu faire. Parce qu'encore une fois, si
on peut suivre, c'est bien.
Oui, et puis, enfin, je pense qu'il faut absolument qu'on sorte de ces visions
binaires,
ou alors soit internationaliste et d'un coup tu deviens, selon certains, un néocolonialiste, alors ce que ça n'a absolument rien à voir, ou alors tu t'enfermes dans ta nation, ce qui fait que finalement tu oublies de regarder le reste du monde. Enfin, il faut absolument, ouais, non, mais t'as raison, qu'il faut qu'on se réinvente, ou en tout cas que les gens dépassent aussi les pensées politiques qu'ils ont pu ingurgiter. C'est pas parce qu'on est à l'extrême gauche qu'on doit forcément soutenir tous les régimes autoritaires parce qu'ils sont de gauche.
Qu'ils se disent de gauche.
Ou parce qu'ils se disent.
C'est peut-être pas la
nuance est là. Aussi.
La nuance est là. Pour moi.
Ils sont avant tout autoritaires.
Déjà, voilà.
Et ben, si vous avez plus rien à rajouter, je vous propose alors de partir en musique. Et on revient après, hein, quand même.
Me battre.
Et vous êtes de retour sur la causerie, enfin à la cause, enfin bon, vous êtes de retour ici sur les ondes de Radio Canu. On est, on vient de s'écouter, pardon, de Bamix avec un nouveau titre. C'est les petits tracts. Ouais. Voilà, c'est sur les luttes des femmes et à travers le monde avec du chant yiddish, tout ça. Enfin bon, c'est
et un chant du Rojava, du Rojava.
Ah oui, c'est ça.
Dit, voilà.
Donc voilà, donc c'était de Bamix.
Je veux dire qu'on peut aider de Bamix en commandant ce CD de titre ou ce vinyle, c'est ou ça. Les deux, sur le site de Bamix.net, parce que c'est tout de l'autoprod et qu'il vit pas d'autre chose. Donc voilà. Oui, non, mais je veux dire pour sa musique,
oui,
c'est de l'autoproduction.
Tout à fait.
Voilà. Après, il ne vit pas d'amour et d'eau fraîche.
Non, c'est, non.
C'est fou.
Il a essayé, je crois, mais il a failli mourir. Non, je plaisante. Alors, on va continuer. Eh ben, Fab, tu vas nous faire. J'adore. Je peux le refaire comme la semaine dernière. Tu vas nous faire un grand format ce soir.
Oui, ce soir, c'est grand format. Non.
Tu vas nous parler de l'IDAO.
Ouais, l'IDAO. Alors, pas l'État aux États-Unis, okay. Hein, mais l'IDAO comme la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Mais c'était en anglais. Alors, je vais juste rappeler d'abord, je fais un petit historique, rappeler que cette journée, elle est née d'une initiative au départ au Québec en 2003, qui a choisi la date du 17 mai pour avoir une journée pour la lutte pour les droits des personnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et trans dans le monde, et au Québec en particulier. Pourquoi ils ont choisi le 17 mai? Parce que c'est intéressant de se dire, tiens, c'est marrant, pourquoi le 17 mai? Et ben parce que c'est le 17 mai 1990 que l'OMS a retiré enfin l'homosexualité des troubles mentaux. Voilà. Oui, 1990, hein, vous avez bien entendu, c'est-à-dire il y a 27 ans, hein, pas il y a 50 ans en arrière. Et oui.
On peut rappeler que l'homosexualité était dépénalisée en France en 82.
Tout à fait.
Ce qui n'était pas non plus il y a un siècle.
Ouais. Donc, et on va quand même noter quelque chose qui est important, c'est que depuis 1990, l'OMS n'a toujours pas déclassé ce qui concerne les personnes trans des troubles mentaux. La seule chose qu'ils acceptent, entre guillemets, c'est de dire que quand on se travestit, c'est pas grave. Voilà. Donc on voit qu'on est encore loin de...
Des progressistes, hein, j'ai envie de dire.
Encore loin d'avoir gagné la lutte, hein, quand même. Donc en 2003, Québec, première initiative autour de cette date. Et en 2005, trois pays en fait vont lancer une journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Alors, les trois pays en question, c'est la Belgique, la France et le Canada, à travers le Québec, qui vont avoir l'idée de lancer donc une journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Et pour qu'elle soit comprise partout dans le monde, ils ont créé cet acronyme de IDAO, qui veut dire International Day Against Homophobia, et quelques années après, est venu s'ajouter N-Transphobia, voilà, et c'est pour ça qu'il y a cet acronyme-là, et qu'il est utilisé partout dans le monde. Alors oui, je sais, il y a des puristes qui disent c'est encore en anglais. Oui, c'est vrai, mais c'est vachement plus pratique pour être compris.
Bah, on aurait pu le faire en breton, mais...
ça aurait moins bien passé.
Bah, voilà. Ouais.
Alors, le but dès le départ de la journée, c'est de peser au niveau international pour améliorer et rendre sûr la vie de millions de personnes. Ça, c'est le premier objectif de cette journée de lutte. Alors très clairement, hein, quand on dit journée, c'est le point d'orgue en théorie la journée. Ça ne veut pas dire que la lutte elle a lieu qu'une fois par an. Hein. C'est juste qu'une fois par an, bah, on sait que dans tous les pays, on peut lancer à la même date une action. Sachant que cette année, enfin non, depuis deux ans, l'IDAO s'étale sur 10 jours, c'est-à-dire entre le 7 et le 17 mai, pour des raisons logistiques et pratiques. Parce qu'en fait, il y a des gens qui comme ça peuvent passer de pays en pays. Il y a des moyens qui peuvent être transmis de pays en pays, des banderoles notamment. Alors c'est très ça peut paraître très bête, mais c'est pas si simple de militer partout dans le monde. Il y a des endroits où, en fait, la banderole, c'est bien quand elle passe d'un pays à l'autre, parce que ça évite d'en faire une nouvelle à chaque pays.
Voilà. De la garder aussi pour certains, je pense.
Oui, oui, tout à fait. Et puis surtout, il y a l'idée derrière de passer à la notion de c'est pas tout une seule fois par an. Vous voyez, 7, 17, ça fait 10 jours. Ça, voilà. Voilà. Donc je continue un petit peu parce que je trouvais ça assez marrant. Parce que rien que ça a fait grincer des dents déjà au départ, hein, quand des gens ont osé dire qu'il fallait qu'on s'intéresse au sort des gens dans le monde. Alors, oui, il y a des gens qui aiment pas. Alors, son autre poids, en fait, et c'est à noter que la France est étrangement, est assez présente dans ce domaine-là, c'est de faire reconnaître une dépénalisation universelle de l'homosexualité. C'est-à-dire que l'homosexualité ne soit plus classée comme quelque chose d'anormal, d'amoral ou d'illégal n'importe où dans le monde. Donc ça, bah forcément, ça se passe à l'ONU. Et la France a été, via Ramayad à l'époque, parce que ça avait fait beaucoup d'encre, elle a été porteuse d'une déclaration qui n'est contraignante que pour les signataires de cette déclaration, mais qui a quand même été signée par 67 pays, qui disent bah oui que l'homosexualité n'est pas un problème et qu'elle n'a pas à être pénalisée ni médicalisée. C'est ça qui est important, c'est qu'il y avait aussi cette notion-là dans ces textes portés. Alors on va quand même noter que, en toute logique, hein, ni la Russie ni la Chine ne l'ont signé, mais qu'évidemment les USA non plus. Hein. Pourtant c'était super Barack Obama à l'époque, le mec méga cool qu'il y avait avant, le moins cool qu'il y a aujourd'hui. Mais ils n'ont pas signé. Alors les USA n'ont pas signé parce que cette déclaration contrevenait aux droits des croyants. Je l'ai rappelé quand même parce que c'est important. Alors on va pas se leurrer, cette déclaration c'est avant tout le fruit de la mobilisation des associations et de la société civile, comme on dit, mais j'aime pas ça, mais enfin des militants un peu partout dans le monde. Et pas du tout un truc qui serait sorti du bureau de Ramayad d'un matin, quoi. Enfin, je veux dire, parce que de temps en temps, c'est un peu comme quand, pour la Sécu, on dit c'est un seul ministre qui nous l'a donné, c'est pareil. Non, c'est qu'il y avait depuis longtemps des luttes, et justement, que cette journée du 17 mai, plus les marches des fiertés, ont servi énormément, enfin, ou appelé Gay Pride d'ailleurs dans le monde, ont servi énormément à faire émerger l'idée qu'il fallait faire quelque chose au niveau international. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de se souvenir que ça ne sort pas que d'une seule personne. Et en 2011, justement, parce que ça ne sort pas d'une seule personne, l'Afrique du Sud va porter une résolution qui, elle, va entrer les droits des personnes LGBT dans le monde. C'est un tout petit peu différent entre la dépénalisation, vous voyez, qu'il y avait dans la première, et le fait, la notion qu'il faut des droits protecteurs. Parce que des droits, c'est ça l'idée, c'est d'avoir des protections particulières pour les personnes LGBT. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que dans la déclaration de l'Afrique du Sud, les personnes trans sont citées, ce qui n'était pas le cas dans la déclaration française portée par la France en 2008. Elle l'était, mais en marge, alors que là, elles sont clairement établies comme étant à protéger, faire attention, tout ça. Voilà. Ça peut paraître très bête, mais c'est pas rien, en fait, hein, parce que quand l'Afrique du Sud, qui est quand même le pays le plus riche d'Afrique, porte quelque chose, au niveau du continent africain, ça a un poids. Alors je vais dire quelque chose de très provocateur, mais qui est réel, c'est parce que c'était les gens d'Afrique du Sud qui le disaient. Ils ont voulu contrer l'Arabie Saoudite à l'époque, qui, elle, est en Asie. Voilà. Donc ils expliquaient qu'eux avaient un poids sur le continent africain qu'ils devaient faire porter et faire de l'Afrique un continent plus avancé, entre guillemets, que ne pourrait l'être l'Asie mineure dans quelques années. Vous voyez, il y a un petit peu de la provoque aussi géopolitique, mais on voit qu'il y a une idée d'aller vite et de protéger les gens. Voilà. Maintenant, donc ça fait 12 ans que l'IDAO existe, hein, pas l'État, encore une fois, la Journée internationale de lutte contre les discriminations envers les homosexuels et les personnes trans. Et elle a des mots d'ordre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a des mots d'ordre mondiaux, hein, qui sont posés. Alors, elles sont posées par les différents collectifs, des collectifs IDAO, vous en avez dans chaque pays, signataire de la charte ou qui ont adhéré à l'IDAO. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils ont 125 représentants dans le monde, enfin 125 antennes dans le monde, sur 195 pays, c'est pas mal hein, quand même. Voilà. Et en 2010 et 2011, ils ont par exemple porté le mot d'ordre porté sur les religions et leur poids. Alors, ça peut surprendre, mais c'était vraiment le mot d'ordre. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils se sont pas, entre guillemets, attaqués aux dignitaires religieux, parce qu'ils savaient que ça servait à rien et que de toute façon, ça allait être un lever de bouclier. Non, ils ont plutôt interpellé dans des campagnes des croyants, en leur disant, mais si c'était ton fils, ta fille, tu ferais quoi, en fait? Enfin, t'es sûr que t'as envie de la rejeter? T'es sûr? Alors, ça peut paraître comme ça très béni, oui, parce qu'il y a des gens qui ont reproché à cette campagne d'être très soft, sauf qu'il faut imaginer qu'il y a des pays où rien que ça, c'était déjà énorme. C'est-à-dire que voilà, hein, c'est toujours facile de voir ça de nos pays où il y a un peu moins de problèmes qu'ailleurs, et de se dire, ouais, non mais c'est nul. Ben non, sauf qu'en fait, il faut imaginer ça dans des régions où la religion a un poids énorme.
Donc, ce qui représente une majorité de pays dans le monde quand même. Hein.
Oui, tout à fait.
Le poids des religions.
Oui, il faut pas l'oublier. Hein. C'est à peu près 80% des pays où la religion n'est pas sécularisée du tout. Donc on voit bien que oui, ça représente beaucoup de pays. Alors faut noter quelque chose, c'est que l'initiative de l'IDAO en 2010 et 2011 a été énormément critiquée par la Russie parce que c'était les périodes où les fameuses lois contre la propagande homosexuelle ont commencé à émerger en Russie. Elles ont fini par arriver dans les lois russes, je crois, en 2014-2015. Par les États-Unis. C'était très drôle, parce qu'il y avait une sorte d'union sacrée des deux gros pays, voilà, qui disait que les homosexuels, ils s'en prenaient aux religieux. Hein, phrase prononcée par une certaine Hillary Clinton. Voilà.
Une progressiste.
Qui était à l'époque à la tête du comment on appelle ça là, enfin, qui allait se balader dans le monde au nom des États-Unis. Voilà. Donc on voit qu'il y avait des termes différents, mais le fond était le même, quoi, et qu'il y avait la volonté, ben, encore une fois, de faire passer d'abord le sentiment religieux, voilà, avant la liberté des uns et des autres. Et en 2017, ben, les organisateurs estiment que la journée est largement installée, et surtout qu'elle permet des initiatives, même dans les pays non signataires de la déclaration d'Afrique du Sud, vous voyez, de la déclaration de 2011. Donc c'est intéressant parce que du coup, il y a une vraie notion d'international qui se met en place, c'est-à-dire que ben, il y a des gens qui peuvent se saisir de cette journée-là qui existe pour dire, hey, aujourd'hui c'est la journée où on peut, où on doit porter quelque chose et où on peut le faire. Et surtout, ils savent que ça a un impact médiatique, parce que les journaux, sachant que c'est la journée machin, ils en parlent. D'ailleurs, on vous parle de tout, hein, de la journée des secrétaires, de la journée machin. Bah, ça tombe bien, hein, des fois, on vous parle de la journée des droits humains, c'est bien. Voilà. Par exemple, ils aimeraient que, comme pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette déclaration des droits à la diversité sexuelle, c'était ce qui était porté par l'Afrique du Sud, permette à des militants et militantes partout dans le monde de s'appuyer sur ce qui existe pour exiger ce minimum, c'est-à-dire le texte, à minima, dans leur pays. Il faut savoir que le texte porté par l'Afrique du Sud ne va, entre guillemets, pas très loin, dans le sens où, par exemple, il dit pas, il faut qu'il y ait une égalité face au mariage, ou autre comme ça, parce qu'il y a des gens qui ont dit, ouais, c'est ce que l'Afrique du Sud veut faire. C'est pas du tout ça. En fait, ils demandent juste, ils disent juste, en fait, quelle que soit la sexualité des personnes, quel que soit leur genre, elles ne doivent pas être discriminées, et elles ne doivent pas être assassinées. Je le fais un peu provocateur, mais c'est en gros ce qui est écrit, quoi. Donc on n'est pas dans un texte qui révolutionne la vie, hein, même si ça fait déjà des grands pas. Mais je veux dire, le texte n'imposerait pas à un pays qui veut pas le faire le mariage pour tous, vous voyez, ou un texte n'imposerait pas la GPA ou la PMA comme on l'entend. Donc rien que ça, en fait, c'est une base minimale où des militantes et militants ou des gens concernés peuvent s'emparer pour aller un peu plus loin et aller un peu porter des choses. Et surtout, ben, les comités IDAO partout dans le monde, ils fonctionnent très très bien, notamment pour financer à droite à gauche des choses et aider un peu financièrement ou avec des biens matériels les gens sur place. Et ça, c'est hyper important parce que bah, y a plein de pays où en fait c'est pas facile et surtout on n'a pas de sous, donc donner pour faire des choses, parce qu'il y a des gens, hein, j'ai lu, hein, sur internet, tu dis ouais, mais alors, pourquoi ils auraient besoin d'argent pour faire une manif? Bah, parce que quand on fait une manif, faut une banderole, parce que des fois il faut peut-être tout bêtement acheter une sono, louer une sono, vous voyez, c'est des trucs très bêtes, mais en fait bah, c'est pas des milliers d'euros, mais donner un petit peu, ça permet comme ça. Et puis aussi les comités IDAO, ils financent aussi des maisons où les gens peuvent se planquer, des avocats quand ils sont condamnés, ou des choses comme ça. Vous voyez, ça s'arrête pas juste à la manif et à la banderole. Et une des grandes luttes, justement, des comités IDAO dans le monde, c'est une dépénalisation pour les personnes trans. Voilà, ça c'est le gros morceau porté. Et bien sûr, le retrait des maladies mentales à l'OMS pour ce qui concerne les personnes trans, parce que c'est quand même grave qu'à l'OMS, aujourd'hui, on ait encore cette vision-là, très rétrograde. Il faut savoir que la France a été un des pays les plus en avance, bizarrement, qui a retiré les maladies mentales, la transidentité. Par contre, elle reste à la traîne pour faciliter les droits. Donc c'est un peu schizophrénique, hein, ce qui se passe en France, mais voilà. Et c'est un paradoxe qui est vachement accentué par une pression de la manif pour tous depuis un certain nombre d'années, où on voit bien que ben voilà, c'est assez bizarre d'être en avance au niveau international et en retrait sur son sol, enfin c'est un peu étrange, quoi. Et en 2017, c'était, pardon, le mot d'ordre, c'était family, all family. Tout, voilà, toutes les familles.
Je disais juste, c'est vrai qu'on voit très 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 fortement le poids de la manif pour tous sur ce recul, sur cette peur de se dire que même si oui, enfin la grosse majorité a envie d'aller dans ce sens-là, on peut pas se mettre ces 20% ados, tout ça, et on s'interdit de ça, alors que dans notre âme et conscience, on est persuadé que ben voilà, y a pas
c'est, de, c'est des jeux normal. Politiques. Oui, c'est horrible de jouer sur la roulette politique, la vie des gens, quoi. Enfin, c'est surtout ça qui est dégueulasse. Quoi. Oui, je vais continuer. En 2017, où on en est, donc dans 74 pays, l'homosexualité est toujours punie, est un délit ou un crime passible de peine de mort, de prison, de supplice corporel ou d'amende. Voilà. Et parmi ces 74 pays, il y a 13 pays où l'homosexualité est officiellement punie par la mort. Et je vais en faire la liste, excusez-moi, mais ça me semble important de le savoir. Donc c'est le Pakistan, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, le Brunei, l'Iran, l'Irak, dans les régions contrôlées par l'État islamique uniquement, la Mauritanie, le Nigeria, dans les 12 États du Nord qui ont adopté la charia, le Qatar, le Soudan, la Somalie, dans les territoires sous domination de Al-Shabaab, et en Syrie, et en Syrie, dans les territoires contrôlés par l'État islamique aussi, et au Yémen. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez terrible, c'est que le nombre de pays a augmenté. C'est-à-dire qu'on est passé de... Eh oui, on est passé de 9 à 13. Donc, c'est important de souligner qu'il y a un léger problème. À noter que dans des pays comme la Russie ou la Chine ou l'Inde, on note des régressions très fortes concernant les droits des personnes LGBT depuis des années. Je vais faire une petite pause musicale là et je reviens après pour vous donner quelques infos autour de cette journée, ce qui s'est passé en 2017. Voilà. Bien dans la causerie dimanche 22-23h sur Radio Canu et c'était Zazie. Et oui, ben j'aime bien Zazie. Donc voilà.
Mais tu as le droit.
Pas tout Zazie, mais ce titre de Zazie, je l'aime bien. Adam et Yves, qui est plutôt cool, je trouve. Voilà.
Et bien on continue toujours. Tu nous as commencé avec l'IDAO, l'historique, etc. Et puis là, ouais, tu continues ton tour.
Toujours pas le pays. Hein.
Et, enfin, oui, toujours pas le pays. La journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc en fait, oui, je voulais vous donner un petit peu des trucs qui s'étaient passés en 2017. Alors on va commencer par les bonnes nouvelles et puis j'irai dans les trucs un peu plus sombres après. Dans les bonnes nouvelles, malgré une énorme pression des religieux du pays qui a obligé les organisateurs à limiter les réunions débats qui auraient dû avoir lieu, s'est tenue la première semaine des fiertés au Liban. Voilà, et donc c'est hyper important. Et s'est tenue aussi la première Gay Pride, la première marche des fiertés au Liban, qui a été un peu écourtée malheureusement.
C'était aujourd'hui.
Ouais. Ça a pas été facile, ça a pas été simple, ça s'est pas passé sans heurts ni violence, mais en tout cas ça s'est tenu et ça c'est cool. Et c'est un pas de plus hein, quand même vers une plus grande visibilité et qui sait pour le Liban une plus grande acceptation des personnes LGBT. Et plusieurs personnes soulignent, notamment dans les journaux de la région, que c'est la première Pride, comme ils disent, du monde arabe. Voilà, du monde dit arabe. Donc voilà, un grand bravo à eux. Et c'était vraiment pas facile. Autre bonne nouvelle, la tenue de plusieurs forums et rassemblements dans des pays comme la Tunisie. Là, je vais vous renvoyer au site de Shams Tunisie, qui donne une pléiade d'infos. Hein, allez-y, c'est vraiment bien. Au Maroc, en Jordanie et en Palestine, mais côté Cisjordanie, pour une dépénalisation de l'homosexualité. Alors là aussi, ça s'est pas passé forcément dans la joie et la bonne humeur, mais quand même, c'était plutôt cool. Enfin, si, à l'intérieur, c'était la joie et la bonne humeur. Par contre, les gens dehors avaient la patte particulièrement sympa. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il y a eu des demandes propres à chaque pays, notamment la fin des tests anneaux, dont on avait parlé avec Yad quand il était venu, Yad qui était venu pour Shams France, et surtout la fin de l'emprisonnement préventif en Jordanie, parce que voilà, ça existe toujours, c'est-à-dire que quand on pense que vous êtes homosexuel, vous allez en prison au cas où. Bizarre. Voilà. En Amérique du Sud, en particulier au Brésil et au Paraguay, c'est la dénonciation des meurtres commis contre les personnes trans qui a été portée cette année énormément. Alors ça peut sembler étrange comme bonne nouvelle, hein, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça donne de la visibilité à ce qui se passe. Et puis, plus vous avez de visibilité, plus vous pouvez combattre. Hein, c'est le principe même de quelque chose de négatif, c'est qu'il faut le voir pour le combattre. Voilà. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que malgré, comme disaient les organisatrices, parce que c'était que des femmes, notamment au Brésil, malgré en fait l'appel qui concernait entre guillemets, comme elles disent, que des trans, ils ont eu autant de monde que d'habitude, voire plus. Donc c'est la preuve que il y a enfin une jonction qui se fait. C'est plutôt une bonne nouvelle, voilà. En Russie, j'ai une bonne nouvelle sur la Russie. À Saint-Pétersbourg, s'est tenu un rassemblement de 300 personnes pour dénoncer les crimes commis en Tchétchénie et dans le Donbass contre les personnes LGBT. Et ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas été réprimés, parce que comme ils ont eu une très bonne idée, c'était de l'annoncer dans la presse, et il y avait plein de journalistes qui filmaient, et ils savaient que ça servirait à ce qu'on ne leur tape pas trop dessus. Et ils le disent eux-mêmes. Voilà. Mais surtout, ils ont demandé le soutien des comités IDAO partout dans le monde, ce qui a permis que sur tous les sites dans le monde soit annoncé ce rassemblement. Vous voyez, l'international, ça sert aussi à ça. Et ils demandent bien sûr l'abolition de la loi contre les propagandes dites homosexuelles, bien sûr, pour revenir un petit peu dans un état un peu plus safe pour les personnes LGBT, hein, quand même. Et en parlant de Tchétchénie et du Donbass, on sait que dans ces deux régions, il y a des actes de mort, d'emprisonnement, de déportation qui sont commises contre les personnes LGBT. C'est quand même, je voulais le rappeler, j'en avais parlé dans une autre émission, que c'est quand même le courage de militants sur place et de journalistes qui a permis de faire sortir ça, et aussi le relais justement des comités IDAO partout dans le monde qui ont permis d'avoir l'information, et ça c'est plutôt cool, parce que c'est à ça que ça doit servir. Pas ce qui se passe, ce n'est pas cool, c'est sûr, mais par contre, le fait de pouvoir avoir l'information, c'est hyper important. Et à noter que plusieurs associations, dont trois françaises, SOS Homophobie, Mousse et justement le comité IDAO France, ont déposé une plainte devant la Cour pénale internationale. Alors bien sûr, ça peut paraître être un pas symbolique, ils ont déposé une plainte contre le pouvoir tchétchène pour crime contre l'humanité. Sauf que c'est pas réellement symbolique, parce qu'en fait ça va permettre des enquêtes officielles, parce que la CPI doit enquêter officiellement pour pouvoir dire si oui ou non il y a des actes commis. Donc ça va pouvoir permettre d'avoir des choses plus officielles, entre guillemets, ce qui peut servir au niveau international. Et surtout, le fait qu'il y ait une plainte déposée à la CPI oblige les pays qui sont signataires, qui sont membres de la CPI, à accueillir les réfugiés politiques qui sont en lien avec cette plainte. Vous voyez un petit peu la logique qui est derrière. Elle n'est pas bête. Voilà, donc c'était plutôt une bonne nouvelle et surtout une bonne initiative. Voilà. Et l'ONU aussi cette année, c'est un peu plus mouillé que d'habitude, et ça c'est assez étonnant. Ça a même étonné les gens qui étaient dans les comités IDAO, parce qu'ils sont pas habitués à ce que l'ONU prenne part à ce combat-là ouvertement. Sauf que là, ils l'ont fait un peu en biais. Ils ont produit 3 vidéos sur les droits égaux pour toutes et tous dans le monde, qui sont étonnamment sorties le 17 mai. C'était pur hasard du calendrier. Et bizarrement, dans ces vidéos, on voit des personnes LGBT. Voilà, donc on voit qu'il y a une volonté quand même d'inscrire ça aussi à l'agenda de l'ONU, malgré que plusieurs grosses puissances freinent des quatre pieds, des quatre fers, hein, c'est le cas de la Russie et des États-Unis, je le rappelle, et que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Mais il y a eu quand même des moments plus rudes. Alors, je suis désolé, je vais un peu plomber la soirée, mais il y a aussi des réalités qu'il faut connaître. En Ukraine, par exemple, les militants et militantes ont été attaqués au début d'un rassemblement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu continuer à aller plus loin, par des milices armées d'extrême droite qui se réclament de la grande Ukraine pure et pour l'orthodoxie pure. Voilà, c'est joli. Oui.
Non, c'est drôle, c'est que c'est toujours le même genre de militants finalement qu'on a entre nous.
Clairement.
Ce sont en Ukraine, aux États-Unis, en Afrique du Sud ou en France.
Il y a eu plusieurs blessés et d'ailleurs, ça a fait réagir le gouvernement ukrainien. Alors non pas parce que je vais être horrible, mais je vais reprendre texto la phrase qu'il y avait. Non pas parce qu'il y avait des homosexuels blessés, mais parce qu'ils ont aussi blessé des policiers. Oh. Et ça, c'est pas bien. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu cynique de voir parce que le gouvernement a cité les blessures des policiers. Ils ont un petit peu oublié de citer qu'il y avait les manifestants qui avaient été blessés aussi. Au Qatar, en fait, des présumés militants semblent avoir disparu sans laisser de traces. Hein. C'est assez fréquent au Qatar, malheureusement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont des liquidations d'État. Alors, je vous rappelle comment ça se passe au Qatar, les liquidations d'État. On prend la personne, on la met au milieu du désert, on l'attache, et en général, on attend. Voilà. Et pareil en Arabie Saoudite, où des militants auraient disparu, notamment leurs comptes Facebook ont disparu, eux aussi. Enfin, il n'y a plus d'activité sur leur compte Facebook, et on n'a pas de nouvelles. Et c'est pas la première fois, et malheureusement, souvent, on n'a pas de nouvelles du tout, on ne sait pas ce qui s'est passé, et on est obligé de dire au bout d'un certain temps, il a disparu, quoi. C'était important aussi de savoir que ça existe, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, ce grand pays qui sont les États-Unis, après la France, est allé signer un beau contrat avec l'Arabie Saoudite. On voit donc partout dans le monde, les conservateurs et la réaction sont encore bien présents. Ils sont bien organisés, c'est surtout ça qui est intéressant à noter. Et eux, ils sont internationalistes, c'est ça qui est terrible. Par exemple, on va souligner qu'il y a un lien très fort qui s'écrit entre les évangélistes africains et les évangélistes états-uniens. Les uns finançant les autres. Alors, c'est pas les Africains qui financent les États-Unis, c'est dans l'autre sens que ça marche. Donc, c'est les plus riches qui financent les plus pauvres, comme on dit. Mais surtout, ils leur donnent des financements contre la propagation de messages très clairs, haineux, envers les personnes LGBT, envers les femmes divorcées, envers les femmes qui voudraient avorter. Bref, la litanie habituelle. On va aussi donner l'exemple, parce que j'en avais parlé ici, mais ça a été confirmé, vu que l'église orthodoxe russe est montée au créneau pour demander à ce qu'on arrête d'embêter les imams tchétchènes, parce que c'était pas bien, et que c'était s'en prendre à leur foi. Donc on voit bien qu'il y a une collusion très claire entre les islamistes tchétchènes et les orthodoxes russes, et qui sont sur la même base, c'est-à-dire, comme ils le disent eux, éradiquer ce mal, quelle homosexualité. Voilà. Ça m'a choqué parce que c'est surtout qu'ils peuvent dire ouvertement ça, éradiquer ce mal qu'est l'homosexualité, sans que finalement ce soit vraiment relevé, et ça je trouve ça grave. On va aussi se dire que c'est quand même grave de ne pas voir que partout dans le monde, globalement, les religions sont là pour appuyer les revendications les plus rétrogrades et que c'est pas une grande nouveauté. Donc quand la journée internationale de lutte contre les discriminations envers les homosexuels et les trans porte deux années de suite une parole envers les croyants en leur disant mais arrêtez de discriminer ce qui pourrait être vos propres enfants, quoi, voilà, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait c'est une réalité dans le monde et que c'est pas juste tout le monde n'est pas la France ou la religion est plutôt sécularisée. Et d'ailleurs, on voit quand même en France que malgré le fait qu'elle soit sécularisée, il y a quand même un poids énorme du religieux, et on le voit par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure à la Manif pour tous, notamment, qui a un poids hallucinant. Je vais juste rappeler quand même qu'en France, les crimes haineux contre les personnes homosexuelles ont augmenté depuis 2013 et n'ont pas cessé d'augmenter, avec un bond l'année dernière de 20%. Je vous renvoie pour ça à l'excellent travail de SOS Homophobie. Et on pourrait penser que c'est terminé, hein, parce que comme il y a eu le mariage pour tous, tout va bien. En fait, non, on voit bien que ça n'en empêche pas. C'est pas parce qu'un nouveau droit est acquis que les haineux se calment, bien au contraire. Donc, encore une fois, c'est un travail de longue haleine et qu'il faut mener. Et c'est ce que j'essaye de faire là avec vous, c'est-à-dire de visibiliser, de parler, de comprendre que ça se passe partout dans le monde et ça se passe pas qu'en France. Et alors justement, je vais reprendre une phrase qui est pas tout à fait de moi, je suis un peu résumé, qui était d'une des présidentes de l'IDA, du comité IDAO en Afrique du Sud, qui disait que l'internationalisme est pour l'heure du côté des réactionnaires et de la réaction. et pas assez de notre côté, du côté des progressistes. Et que si nous ne changeons pas la donne, les signes encourageants qu'on a pu voir ces dernières années ne vont rester que des signes et qu'on va régresser. Et je reprends sa phrase, car quoi de plus universel que d'aimer, désirer et baiser ? Voilà, c'est à peu près universel. Donc là, c'est moi qui parle. Libérer les sexualités, les genres, c'est sans doute une des choses que nous devons porter de façon internationale, ça c'est clair. Et surtout, sans soucier d'autre chose que du droit de vivre pleinement qui l'on est. Parce que c'est un petit peu à ça qu'il faudrait revenir. Voilà, c'était mon format long sur la journée internationale de lutte contre les... je me suis perdu. Contre l'homophobie et la transphobie, voilà.
Et je voulais en profiter juste pour rappeler l'importance que ça se passe partout dans le monde, d'en parler, de continuer là-dessus, etc. C'est parce que on se rend compte maintenant, grâce à ce travail-là, et on voit par des journalistes, par des gens qui sont investis, des gens sur place, on se rend compte dehors, en Tchétchénie, qui était invisible jusqu'à présent aux yeux du monde. Et c'est via ce genre d'association, ce genre de mouvement, ce genre de choses qu'on va continuer malheureusement à le découvrir ça ailleurs, mais qu'au bout d'un moment, peut-être qu'on arrivera à vraiment combattre ça sur toute la planète.
Et il ne faut pas oublier que n'importe quel dictateur a du mal quand il a les feux braqués sur lui, les projecteurs braqués sur lui, et que merci Clara, tu le mets.
Et oui, Clara suit ma chronique.
Il y en a une qui a suivi ma chronique. Mais voilà, non, mais c'est important parce que le fait de mettre sous les projecteurs ce qui se passe, ça a du poids en réalité, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on est une société hyper connecté, et qu'on le veuille ou non, ça les emmerde un peu d'être vus comme ça, quoi. Pas toujours, mais quand même un peu. Ouais.
Et alors, autant pour les dictateurs, etc., tous les régimes autoritaires, et c'est aussi pour celles et ceux qui subissent toute cette haine et toute cette violence, c'est que parfois ça peut leur tomber devant les yeux de se dire tiens, en fait, il y a des rassemblements, on parle de nous aussi à l'extérieur, que ça se passe pour les prisonniers politiques, etc. C'est toujours pareil, en fait. C'est aussi cette notion de pas être tout seul dans ta cellule ou dans ton enfermement, on va dire, social. Et voilà, enfin, c'est aussi ça, quoi. On n'est pas tout seul, on n'est jamais tout seul. Donc, à nous de continuer d'amplifier tous ces messages et tout ça, quoi.
Et je vais terminer sur une chose. Si vous avez des gens à l'étranger qui ont besoin de visa parce qu'ils sont persécutés en tant qu'homosexuels, je vous rappelle que la France vient de rappeler qu'elle accélérait les procédures pour les personnes qui sont mises en danger dans leur pays. Donc c'est important, voilà, de le savoir. C'est pas forcément grand chose, hein. C'est encore un truc étatique, ça suffit pas, on est bien d'accord. Sauf que quand même, quand il faut arriver quelque part, autant savoir vous pouvez leur proposer de venir chez vous. Voilà, par exemple, enfin chez vous, en France, quoi. Je suis fatigué, moi, excusez-moi. Bon, et si on se détendait un petit peu là avec de la musique, parce que on va en rire de tout ça quand même un petit peu.
Bah ouais.
Et de retour dans la causerie au son de deux sur Radio Canu. Et donc, c'était les Sexy Sushi avec Petit PD et l'immense Rebecca Warrior qu'on adore ici. Enfin, surtout moi. J'avais envie de le dire.
Non, moi aussi, je
enfin bon. Et donc, Stan, tu voulais revenir vite fait sur le fait que tu avais parlé de quelque chose qui est arrivé. Et ça, c'est balèze.
Ouais, je vais parler très brièvement.
Tu es un peu Monsieur Soleil, en fait.
T'as vu? J'avais peut-être pas annoncé comme ça exactement, mais non. Alors je vais revenir juste très vite. Il y a eu un virus qui a fait beaucoup de bruit cette semaine. Il s'appelle WannaCry, parce que littéralement, je crois, c'est tu vas pleurer, un truc comme ça. Et donc qui a bloqué beaucoup de choses, donc certains trucs importants, des
entreprises, oui, des grosses boîtes,
surtout des hôpitaux à Londres qui ont été bloqués en fait. Ce qu'il faut brièvement aussi, les dossiers sont cryptés. Il n'y a pas de truc pour décrypter à part il faut payer. Ça coûte. Enfin pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution pour décrypter ça. Donc les fichiers sont bloqués, c'est mort quoi. Voilà. Bon. Ce qui est intéressant en fait, ça, c'est que ben ça vient de hackers qui ont hacké d'abord la NSA pour avoir des failles de sécurité et pour avoir comment la NSA fonctionnait. Donc là en fait, ils ont mis en place un virus. On sait même pas c'est eux exactement, mais il y a eu un virus qui a été mis en place en utilisant les méthodes qui ont été employés par la NSA, dont même, on va aller un petit peu plus loin, qui ont utilisé en même temps qu'ils mettaient le virus, ils mettaient sur les PC une backdoor créée par un logiciel de la NSA. Donc ça qui est un petit peu sympa, c'est qu'on utilise en plus des outils de la NSA pour créer des virus, pour créer des backdoors, donc des failles de sécurité supplémentaires. Ce qui, donc, ça renvoie à une chronique que j'ai faite sur, ben justement, c'était Wikileaks qui avait balancé les fichiers de la NSA en montrant un petit peu à tout le monde quelles étaient les failles de sécurité utilisées pour la surveillance de masse, et pas, enfin, voilà. Et donc, là, le vrai problème, encore une fois, je le rappelle juste, c'est que c'était peut-être à la NSA de prévenir les sociétés en question pour pouvoir résoudre ces failles, parce qu'on est dans une société où, même si on est hyper connecté, tout ne va pas très vite. Et le virus, quand il a été mis en place, oui, Windows, on parle de Windows là, avait mis en place les correctifs, parce que dès que les fichiers sont tombés, dès que les hackers ont dit, ben nous on a trouvé ça, et regardez ce que la NSA fait, et en plus on va bien vous avoir derrière, parce que c'est leur but quand même. Hein. Mais donc Windows a été assez réactif, mais sauf que on met pas en place tout de suite un correctif partout dans le monde. C'est un peu long, il y a des systèmes qui sont, enfin voilà, c'est assez lourd. Des parcs complets à changer, c'est un peu compliqué. Donc là, encore une fois, est-ce que c'est pas à la NSA de prévenir en amont et de manière discrète les sociétés pour pouvoir faire les correctifs? Je voudrais juste même aussi prendre le contre-pied de tout ce que j'ai lu. Est-ce que c'est pas aussi à Wikileaks de faire ce travail sur les fichiers qu'ils avaient transmis à l'époque, de dire avant de balancer les informations, de faire réparer toutes les failles. Enfin, cela encore une fois, je veux pas que Wikileaks passe pour le chevalier blanc dans l'histoire, vu que c'est faux.
Non, mais surtout que là, ça, comme tu le dis, ça a touché les hôpitaux, quoi. Ça aurait pu être super grave. Enfin, mais je veux dire, on n'est pas juste dans le truc, ça emmerdait Renault, quoi. Moi, je m'en fous, à la limite.
Oui, non, on est d'accord. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Renault. C'est bien prévu. L'exemple des hôpitaux, c'est grave. C'est des dossiers qui ont été bloqués, verrouillés, cryptés. Et il faut payer maintenant pour avoir accès, pour décrypter tout ça. Oui. C'est payant. Et juste ça, voilà, pour dire qu'on en a parlé, c'est arrivé, que ça va continuer, et aussi juste un truc très très bête, parce qu'on n'a pas parlé, je crois, pendant ma chronique. On parle du NSA, mais enfin, ne nous leurrons pas, tous les services de renseignement du monde, il y en a eu plein qui ont exactement les mêmes données, qui utilisaient les mêmes failles. Hein, c'est pas, là, on tape sur le NSA parce que c'est les plus gros et parce que ça leur fait plaisir aux hackers de taper dessus, ou à Wikileaks de taper là-dessus, mais c'est le cas partout dans le monde. Donc il faudrait s'arrêter un petit peu de garder des secrets pour soi. Et voilà.
Mais les services secrets sont un peu souvent des états dans les états, en fait, quoi.
C'est ça.
C'est vraiment ça, quoi.
Oui, vu que j'ai même lu que la NSA commence à créer une espèce de CIA en interne. Voilà, ça part vraiment très loin. Tu vois.
Ouais, ouais. Non-stop. Eh ben merci pour ce rappel de ta perfection intellectuelle.
C'était loin de là mon propos, mais.
C'est devenu.
Si tu me trouves parfait, ça me va. Alors.
Il s'est passé quelque chose. Ça valait le coup de venir.
Oui.
Quelques brèves, Jean-Yves ?
Oui, on continue en tout cas avec des brèves plus locales. Hein. Comme tous les lundis, on vous rappelle toujours cette permanence juridique de soutien aux sans-papiers. C'est toujours de 18h30 à 20h et c'est toujours à la Lutine, au 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement de Lyonnais.
Et on peut signaler aussi que si vous avez des problèmes d'un point de vue du travail, que vous êtes sans-papiers, vous pouvez vous rendre aux locaux de la CGT, cours Viton 215, donc cours Lafayette, pardon, 215 cours Lafayette à l'Union départementale du Rhône, tous les jours entre 8h et midi ou 14h et 17h. Il y a une permanence aussi qui est assurée.
Eh bien, merci pour cet ajout. Et donc ça, c'était pour lundi. Et puis bah, le rendez-vous suivant, c'est le samedi 27 mai. C'est à la librairie La Griffe, toujours 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e arrondissement aussi. Et là, alors, ce sera la projection de La Volupté de la Destruction, qui est le livre 1 du documentaire Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme, alors qui est passé sur Arte, et qui est vraiment assez intéressant. Et c'est suivi d'une présentation de scènes coupées et d'extraits du livre 3, qui s'appelle Les réseaux de la colère. Et c'est par Tancred Ramonet, donc le réalisateur. Et tout cela sera suivi d'une discussion sur l'anarchisme hier et aujourd'hui, en compagnie de Jean-Christophe Angeau et de Claire Ozias. Donc c'est samedi 27 mai à 15h à la librairie La Griffe. Voilà, c'était tout pour les rendez-vous. S'il y a le suivant, le dimanche de 22 à 23.
Bah oui. J'allais dire le plus intéressant, mais... Peut-être pas en fait.
Non, on va pas non plus trop développer notre ego.
Et voilà. Et sinon, sur cette bonne vieille radio qui a 40 ans, voilà, oui, qui est Radio Canu, juste je voulais en profiter pour rappeler aux gens que si vous voulez faire de la radio comme nous, ben on est bénévole et vous pouvez aussi en faire. Et c'est tous les mardis que vous pouvez venir voir la prog de 19 à 20h dans les locaux de Radio Canu, 24 rue Sergent Blandan dans le premier.
Alors voilà. La prog, c'est la commission programmation.
Voilà. Voilà, qui reçoit les gens qui voudraient faire de la radio.
Voilà, c'est ça.
Et amener une maquette, c'est encore mieux.
C'est ça. Et Radio Canu, c'est une soixantaine d'émissions en direct toutes les semaines avec que des bénévoles. Ça va du punk au rap en passant ben, par la causerie. Et aussi plein d'autres émissions. Oui. Donc voilà. Donc c'est une grande palette de ce qu'on pourrait appeler le camp des progressistes.
Voilà.
Voilà.
Eh ben, on se quitte.
C'est bon, je vous ai calé.
On se quitte. C'est
oui,
parti.
On se quitte.
Avec quoi?
On se quitte avec Arcana et le titre de la chanson, c'est Serpent's Dance. Voilà. Bonne soirée.
Bon courage. Des bisous à toutes et à tous.
Bonne semaine. Et des gros bisous.
Et bonne semaine. Des bisous.
Ciao.
Ciao.